Nous essayons de construire une nouvelle Tunisie.
Moi, un rendez-vous.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Ce soir.
Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Vous avez rendez-vous avec nous, une soirée énervée qui fait coup double chaque soir, je m'explique. Vous pouvez nous podcaster dès 18h avant même la diffusion antenne de 22h à minuit, le jour même. Première partie, l'actualité et la musique live. Deuxième heure, les archives extraordinaires de France Inter. Et ce soir, l'actu, c'est la Tunisie, le virage. Un conservateur quasi inconnu et sans liste, Kais Saied, est largement arrivé en tête des élections présidentielles et pour les législatives. Succès du parti islamiste et conservateur Ennahda. Alors, quel avenir pour la Tunisie qui jusqu'à présent avait été plutôt laïque? Que racontent ces élections qu'on pourrait peut-être considérer comme un refoulé de la révolution après des années de compromission et de renoncement d'une élite gouvernante loin du peuple? Je cite un article. Christophe Boursaillet?
Vous voulez mes titres peut-être?
Vos titres,
bien sûr. Alors je vais aller du plus sérieux au plus bizarre,
au plus travaillé.
Décalé au plus travaillé. Donc Tunisie, une révolution pour rien, c'est un peu de ça qu'on va parler. Après vous, vous préfériez Tunisie, ça sent le roussi pour l'interrogation.
Enfin,
c'est votre côté journaliste un peu, vous aimez les gros titres, les sensations. Moi j'aimais bien Tunisie, tout ça pour ça. Qui n'est pas inintéressant. Et puis, si on va un peu plus loin dans la recherche lettriste, Tunisie.
Ah oui, d'accord.
Et puis alors, j'en ai une dernière.
Non, non.
Tunisie ou Tunis non?
Voilà. D'accord.
Bon, c'est très.
Ouais. Vous me faites peur quelquefois, Christophe.
Je sais.
L'actualité en live ce soir pour la musique, Marion Guilbeault. Avant le week-end, quelque chose de festif peut-être?
Un petit peu, elle n'est pas tunisienne, elle a des racines yoruba, des racines martiniquaises. Elle est belge aujourd'hui, elle s'appelle Charlotte Adigéry et elle fait une pop hybride et très percussive.
Et puis autre temps, autre parole, ce sera bien le LRV la suite, France Inter plus de Mur de Berlin toute cette semaine avec ce soir l'épisode de Rendez-vous avec X consacré à un bien étrange personnage, l'avocat est-allemand Wolfgang Vogel, espion pour la Stasi. Le NRV, c'est parti.
France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Christophe Boursaillet, avant votre billet d'humeur, votre billet comique.
Non, mon éditorial.
Vous êtes revenu en arrière alors.
Oui, non, j'arrête.
Vous serez payé que pour ça, d'accord?
Oui,
je vous présente nos invités. Elle BJ, vous êtes fondatrice du Collège international de Tunis, vous êtes essayiste et vous venez de publier Dommage Tunisie, la dépression démocratique aux éditions Gallimard. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
À vos côtés, Ziad Limam, vous êtes directeur d'Afrique Magazine. Bonsoir.
Bonsoir.
Et enfin, Bertrand Legendre, essayiste et journaliste, ancien rédacteur en chef au Monde, auteur de Bourguiba aux éditions Fayard. Ça y est, c'est parti, Christophe.
C'est très bien dit, hein, vous avez tout, pour l'instant tout va bien. Alors je sais, Laurent, que c'est un thème qui vous tient à cœur hein, ce soir. Souvent, d'ailleurs, le soir, bien calé dans votre fauteuil, vous méditez une infusion à la main et toujours revient ce refrain entêtant « Mais enfin, où va la Tunisie ?» Alors, je vous comprends, Laurent. Où va la Tunisie? Le problème des révolutions, c'est qu'elles ne devraient pas connaître de lendemain. Voyez, nous voici en 2011. C'est le printemps tunisien. C'est le grand soir. On rit, on danse, on chasse le président Ben Ali et on se réjouit de voir disparaître la caste de prédateurs qui l'entourait. Et le lendemain, on a la gueule de bois et on a le vertige. Bon sang, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? La Tunisie, phare laïque de la région, parviendra-t-elle à instaurer une démocratie équitable? Dès lors, Carthage est ébranlée par une suite de séismes politiques. Voici qu'arrive un nouveau président, un homme intègre, nous dit-on. Mais devra-t-il gouverner avec des islamistes? Le printemps arabe n'accouchera-t-il que d'un nouveau Moloch? Alors, Ziad Limam, dans son dernier livre, son pamphlet « Dommage Tunisie », Elie Béji raconte que le parti de nos gilets jaunes, dit-elle, a réussi. Alors à votre avis, Ziad, l'élection de Kais Saied, c'est mauvais signe pour la Tunisie?
Je pense que c'était une surprise parce que on l'avait dans notre viseur. Mais on pensait pas qu'il avait cette capacité à transcender l'élection, être élu 70%, etc. Donc ça, c'est un. Et deux, je pense que quelles que soient les analyses, il faut quand même rappeler que tout ça relève quand même d'un certain miracle politique. Après que les islamistes, pas les islamistes, conservateurs, pas conservateurs, mais quand même, on en est à la deuxième élection générale post-indépendance, quel beau lapsus, post-révolution, avec un processus qui s'est relativement bien passé malgré l'arrestation d'un des candidats majeurs. Il y a eu quand même une implication plus importante qu'on ne le pensait de l'électorat sur les présidentielles, il y a eu un débat politique. Il faut imaginer dans le monde arabe, moi je le dis à nos auditeurs ici qui ont l'habitude, mais cette scène de deux candidats face à face qui s'affrontent dans un duel, un débat télévisé à une grande heure d'écoute avec des millions de gens qui regardent ça dans les cafés, que ça n'existe pas dans le monde arabe.
Exactement.
Ouais. Vous pouvez chercher sur 20 ans, les 20 ans passés et aujourd'hui, il n'y a pas. Donc ça, je pense, c'est quand même un émetteur. Il faut le garder dans la tête pour analyser tout le reste. C'est quand même une démocratie extrêmement jeune, extrêmement fragile, qui a quelques années, qui a 8 ans, pour le dire, qui est héritière de deux régimes quand même très centralisés autour d'une personnalité charismatique ou pas, Bourguiba Ben Ali,
oui.
Et donc on est dans un processus, dans une évolution, dans un apprentissage où des forces anciennes, mais sur les islamistes, ils ont moins de voix aujourd'hui qu'ils en ont eu en 2011 à la Constituante.
Vous n'êtes pas d'accord.
Donc ils sont moins influents qu'ils ne l'étaient.
Pardonnez-moi, Ziad. On peut pas dire que les islamistes ont perdu du terrain.
Des voix
aux dernières législatives. Certes, Ennahda a perdu des députés, mais ça a été compensé par un nombre identique de députés qui ont été sous la bannière de la coalition El Kamra, qui est encore plus radicale du côté
d'islamistes.
C'est pas Ennahda, mais ça fait quand même le même nombre de députés à l'Assemblée
Alors, alors en même temps, ce Kais Saied, c'est un personnage assez étonnant parce que c'est quelqu'un qui vient de la société civile. C'est pas quelqu'un qui a fait une carrière politique dans un parti. C'est un peu, même si on le connaît depuis 2011, enfin même avant, puisque c'est un célèbre constitutionnaliste, c'est un peu un homme neuf, non?
Non, enfin, c'est un homme neuf. Oui, ne parlez pas de célèbre constitutionnaliste. Il est sorti de l'université avec le titre d'assistant. Il n'a jamais brûlé de thèse. Ce n'est pas pour le dévaloriser, mais il faut rappeler les choses quand même. Quant à sa victoire, c'est la conjonction, à mon avis, de deux mouvements profonds de deux ressorts profonds de la société tunisienne aujourd'hui. D'une part, une poussée islamo-conservatrice, je peux même dire, à son égard à lui, réactionnaire,
On le décrit comme conservateur social-religieux.
Non, quand on veut revenir sur l'abolition de la peine de mort, c'est objectivement de la réaction. Et le deuxième phénomène qui a joué en sa faveur, c'est l'échec profond, patent des partis qui se répartissaient le pouvoir ces cinq dernières années, c'est-à-dire le camp Nina Tounes, séculier réformiste pour simplifier, et le camp d'Ennahda, les islamistes, les démocrates islamistes.
Alors, LBJ, vous vouliez rajouter quelque chose?
Parce que, voilà, j'essaie toujours de comprendre et de ne pas juger. Vous savez, écrire, c'est analyser et comprendre. Il ne faut pas juger trop vite, surtout quand on a... Des fois, on juge trop vite et ensuite, les faits nous donnent complètement tort. Je pense que ce qui s'est produit, la faillite, en quelque sorte, de ce processus démocratique qui était tiré par une sorte de conservatisme qui est propre à toute la société tunisienne. Il ne faut pas croire qu'il n'y a que les Nahda, qui sont... Même les modernistes, chaque Tunisien porte en lui un conservateur.
Sinon, il n'aurait pas été élu, presque publicité, presque avec 80% des voix.
Oui, non, mais je ne parle pas de lui, je parle de Nahda. Il y a eu un échec de la classe, de la caste, parce que très vite, ces révolutionnaires qui ont pris le pouvoir après Ben Ali sont devenus, en l'espace de quelques années, une véritable caste. Avec une sorte de presque de cynisme, je dirais, dans leur manière de se comporter, et petit à petit une sorte d'égocentrisme, de narcissisme, de règlement de compte politicien. C'est-à-dire, on retombait en fait dans. C'est pour ça, moi, j'ai écrit le livre toujours en correspondance avec la démocratie à l'extérieur de la Tunisie. On retombait un peu dans les travers des vieilles démocraties.
Et lui, c'est un homme neuf, donc.
Oui, justement, c'est pour ça. Je vous explique pourquoi. Qui se sont un tout petit peu cette espèce de mélancolie, cette espèce de dépression, parce que le mot dépression ne renvoie pas simplement un peu au reflux, mais à la dépression de la démocratie moderne dans les sociétés très avancées, avec précisément le mouvement des Gilets jaunes qui disent, ben non, ces gens-là ne nous représentent plus, c'est des tyrans, ils nous tirent dessus. Donc, il y a cette coupure. Et donc, il y a eu un peu ça en Tunisie. Il y a eu le sentiment en 10 ans, vous avez mis plus de temps pour vous en rendre compte, mais comme le temps se rétrécit aujourd'hui dans l'histoire, nous, en 10 ans, on s'est rendu compte que la classe politique s'était complètement détachée, séparée, qu'elle vivait dans une sorte de bulle abstraite, et où ils se partageaient. Il y avait des calculs. Le peuple a senti que tout ce qui se tramait dans le politique n'avait aucun retombée positive dans les conditions de la prospérité. Ça, c'est une chose, pour en arriver à Kais Saied. Donc, il y a eu besoin persévérance, de la persistance, de la pauvreté. Après 10 ans d'une révolution qui était précisément là pour rétablir une égalité matérielle et
justice sociale,
beaucoup plus
alors,
grande.
Alors venons-en tout de suite à Caïs Saïed.
La deuxième faillite, ça c'est la première, donc la faillite matérielle, je disais, dans l'organisation de la vie économique. La deuxième faillite, c'était l'arbitraire. Le sentiment que les gens étaient livrés à des abus de pouvoir et donc à un piétinement des lois, du droit, et que le droit qui avait été instauré dans la Constitution, tous les droits humains, sociaux, etc., n'étaient absolument plus... ils étaient devenus des fictions. Et
non,
que...
non. Comme l'a dit Diable Imam, quand même, il faut se rappeler quand même, le redire, malgré tout ce qu'on va pouvoir dire et qu'on a déjà dit sur la dérive politique et économique en Tunisie, c'est une société démocratique. C'est la seule société démocratique du monde arabo-musulman. Il ne faut jamais oublier ça. Les élections se sont passées de manière exemplaire. Ziad Limam a rappelé tout à l'heure ce débat, ce face-à-face tel qu'on le voit dans les grandes démocraties occidentales, qui était une première. Donc il ne faut pas oublier cet aspect-là. C'est pas pour ça qu'on ne peut pas être critique sur ce qui s'est passé.
Et Caïs Saïed a un programme complexe, Ziad Limam.
Attendez, je termine mon idée sur... Donc le besoin de juste... Il y a eu deux besoins. Le besoin matériel biologique et le désir de justice. Le désir de justice l'a emporté, et Caïs Saïed l'a emporté. C'est les deux, en quelque sorte, grandes... voilà.
Il y a un mot qu'on peut utiliser sur Caïs Saïed, c'est le mot utopie. Il fait revivre l'utopie révolutionnaire.
Mais il n'y a pas un côté populiste.
Attendez. Parce que le populisme, on le met à toutes les sauces. Comme on peut pas utiliser les mêmes mots partout. Je sais pas ce que c'est que le populisme en Tunisie. Ce qui est sûr, c'est que c'est du hors parti. C'est du hors cadre institutionnel tel qu'il a été.
Il n'y a pas de parti derrière lui, mais, il n'y a pas de liste derrière lui.
Mais il y a une utopie parce qu'il dit aux gens, nous allons revenir aux origines, nous allons revenir à la révolution, nous allons revenir aux principes, à la lutte contre la corruption, à l'égalité. Il parle un arabe classique qui lui donne une espèce d'aura, une espèce de force, comme ça on a l'impression d'une scène de théâtre où on s'exprime.
Il parle pas du tout comme les autres hommes politiques, justement, il n'a pas du tout le même langage.
Il n'est pas toujours compris, parce que il parle l'arabe classique à la télévision, il a d'ailleurs ce face-à-face télévisuel, il maniait les deux langues, l'arabe dialectique. Dialectale, c'est-à-dire le tunisien toujours, et l'arabe classique, dont il a essayé quand même de se défaire, parce que c'est son image de marque, il faut quand même qu'il soit compris.
Et deux, il y a un phénomène, il y a un ovni politique. Voilà un monsieur qui fait une campagne sans argent officiellement, sans parti, sans soutien, qui traverse le pays à pied, en louage et en taxi et en bagnole depuis des années,
Parce que c'est pas un nouveau venu.
Il a fait beaucoup de télévision pendant toute cette période. Il a fait 2 ou 3 ou 4 générations d'étudiants en droit, donc il a modelé. Et surtout, et c'est là où la contradiction devient absolument extraordinaire, ce type dont on dit qu'il est conservateur, qu'il est réactionnaire, qu'il est ceci et ça, et ce qui est probablement une grande partie de ce qu'il est, a été porté au pouvoir par des cohortes de jeunes qui n'ont pas voté avant. Qui n'ont pas voté aux élections législatives, qui ont à peine...
Petite correction quand même. Il y a une surreprésentation des jeunes très profonde dans l'électorat de Saïeb, mais la plupart des jeunes n'ont pas voté. Nous parlons d'aujourd'hui d'une Tunisie qui, pour 50%, s'abstient. Il faut bien comprendre aussi qu'une partie de la société tunisienne qui avait cru en la révolution ou qui s'y tenait à distance s'est complètement découragée et s'est désinvestie du système politique jusqu'à arriver à cette victoire-là. Caïd Saïeb, c'est monsieur propre, c'est le père de la nation. Il y a d'ailleurs la bouille d'un père de la nation, au bon sens du terme, je crois que ça l'a beaucoup
servi. Une simple question, il est instrumentalisé, selon vous?
Non.
Parce que quand on est un homme seul dans le jeu politique, il y a souvent des gens derrière. Il faut bien des aides pour venir au pouvoir.
Depuis que sa victoire s'est décidée, j'aimerais vous dire qu'il y a beaucoup d'opportunistes se sont engagés dans son sillage, mais c'est à lui aussi de prendre les bonnes distances.
Mais la Constitution est quand même assez claire. Hein. C'est une Constitution qui a été faite pour que personne n'ait le pouvoir, en réalité, tout seul.
Ah ouais.
Elle est le produit d'une... Peut-être que ça se discute, c'est la constituante qui était dominée par les islamistes, puisqu'ils avaient la majorité des élus à la constituante, a fait en sorte que le texte constitutionnel rende pratiquement impossible l'émergence d'un raïs, d'un personnage tout puissant, et en même temps crée un espèce d'équilibre des pouvoirs qui soit totalement transactionnel. Tout le temps, il faut transactionner. Ce qui donnait aux islamistes, qui avaient les bataillons les plus importants de députés, d'élus, etc., un rôle central, quel que soit X. Et donc, c'est ce qu'ils veulent. Donc aujourd'hui, vous avez un président qui est élu par 80% des gens, mais qui a très peu de pouvoirs nominaux, exécutifs. Il a les affaires étrangères, il a la défense, la sécurité, et encore, il faut qu'il soit en accord avec un chef du gouvernement, qui, lui, est l'émanation du vote populaire à l'Assemblée et qui donc est le chef de l'exécutif. Donc il y a ce débat-là. Et là, on va vite sortir de la discussion sur l'utopie, sur où est-ce qu'on en est, etc., pour voir si la Tunisie va pouvoir accoucher d'un gouvernement opérationnel, parce qu'il faut une majorité qui est introuvable pour le moment. Et là, c'est la vraie discussion, alors que les enjeux tunisiens ne sont pas que politiques. Elle en a parlé. C'est l'économie, le social, le travail, l'emploi, tous ces gens-là qui ne se sont pas beaucoup fait ressentir aux élections vont revenir.
Eh bien justement, ça fera l'objet de la deuxième partie du NRV. Retour au débat donc dans quelques instants. Tout de suite, Isia a rendez-vous avec Dominika. Il paraît qu'elle est esselée, pas pour longtemps.
J'ai peur de devenir fou. Je vois danser les orages. J'ai peur de devenir fou parfois. Et se l'est. Et
Esselé, le duo d'Isia et de Dominica, programmation célibataire de Jean-Baptiste Audibert.
Une étape de plus en Tunisie, le seul pays où le printemps arabe n'est pas tourné à l'hiver.
Avec plus de 70% des voix, Kais Saied devient le nouveau président de la Tunisie.
Aujourd'hui, nous essayons de construire avec nos forces, nos moyens, une nouvelle Tunisie.
Il est très honnête, très sérieux, et il parle des jeunes, surtout des jeunes. C'est nous, c'est, on voit nous en Kais Saied.
France Inter. Le nouveau rendez-vous
pour ces législatives tunisiennes, Ennahda, le parti d'inspiration islamiste de Rached Ranouchi, arrive en tête mais ressort affaibli. Il n'aura pas les coudées franches pour gouverner.
Laurent Goumard.
Inch'Allah, espérons qu'ils vont servir le pays et que l'avenir sera meilleur. Inch'Allah. Il faut que tout le monde se mette au travail parce que la situation du pays est devenue difficile.
Où va la Tunisie? C'est le débat du Énervé ce soir. On en parle avec nos invités. Ils sont trois. Elle Béji, qui est fondatrice du Collège international de Tunis, qui est essayiste et qui vient de signer Dommage Tunisie, la dépression démocratique. Ziad Limam, qui est directeur d'Afrique Magazine. Et Bertrand Legendre, essayiste, journaliste, auteur de Bourguiba. On repart du côté peut-être de l'alliance qu'il va devoir y avoir entre le nouveau président et le parti d'Ennahda.
Oui, parce qu'il y a un péril rampant dans tous les pays du Maghreb, bien sûr, c'est le péril islamiste. On dit parfois, notamment quand on se réfère à l'Algérie, qu'il y aurait, selon certains, une sorte d'islamisation rampante par en bas. Est-ce que on insiste au même phénomène en Tunisie? Et est-ce que l'alliance possible entre le président et Ennahda, c'est pas le signe d'une islamisation de la société, Bertrand Legendre?
Oui, c'est en tout cas une poussée islamiste incontestable. Le problème est le suivant, c'est que le compromis constitutionnel de 2014 qui figure dans cette constitution et qu'a très bien rappelé...
Vous brandissez la constitution de la Tunisie. Là,
exactement. Hein, et qu'a très bien rappelé Ziad Limam tout à l'heure. Par exemple, je vous cite un exemple. Article 1er de cette constitution, qui est toujours en vigueur aujourd'hui, la religion de la République tunisienne est l'islam. Article 2, la Tunisie est un État à caractère civil. Et donc, ce qui va se passer aujourd'hui, c'est la Constitution qui le fixe. Le président de la République est obligé d'appeler à former le gouvernement le chef de file du parti qui est arrivé en tête. Le problème, c'est que Ennahda, avec ses 52 députés et la coalition Al-Karama, qui sont des islamistes encore plus radicaux, qui ont fait une campagne sur des thèmes totalement anti-français, ça fait 73 sièges. Il y a 217 sièges à l'Assemblée des représentants du peuple, et donc la majorité est à 109. Si on regarde de l'autre côté, la famille séculière réformée, je n'entre pas dans les détails, ça fait 72 députés. Donc c'est ingouvernable. Le seul exemple qu'on pourrait avoir, surtout pour nos auditeurs français, c'est la 4e République. Un mode de scrutin proportionnel avec des gouvernements et des coalitions très difficiles à tenir et qui éclatent très vite. Je crois que c'est ça qui attend la Tunisie aujourd'hui.
Manifestement, vous n'êtes pas tout à fait d'accord.
Je pense que le fantasme de l'alliance Ennahda Al-Karama est un pur fantasme, parce que ça serait le suicide d'Ennahda. Le jour où Ennahda s'allie avec les ultras, ils sont morts. C'est-à-dire leur processus d'institutionnalisation, leur processus de permanence au pouvoir, le fait qu'ils puissent parler avec les Français, les Américains, les Anglais, les...
Vous avez tout à fait raison. Je décrivais quand même la poussée islamiste. Après donc, ça, effectivement...
Mais ce que je veux dire, c'est que c'est très...
C'est comme si le Parti Républicain essayait aujourd'hui, tenté de se allier avec le Front National.
Ils ne sont pas
très loin les uns des autres.
Donc c'est assez modéré, Ennahda. C'est ça que j'entends chez vous.
Ce qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est les contradictions. Ennahda est un parti... Moi, j'appelle ça néo-islamiste. C'est-à-dire, leur objectif est d'être un parti de gouvernement institutionnalisé. Et donc, là, il y a deux écoles dans la machine. Il y a une école qui dit, il faut aller vers plus d'institutionnalisation, une espèce de démocratie musulmane à l'image de ce qu'avait été à une époque la démocratie chrétienne en Italie ou en Allemagne. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Et puis, il y a une branche qui se scinde, qui dit, il faut rester sur les principes, il faut rester sur la base, il faut rester sur le militantisme, la révolution sociétale, etc. Et ça, ça vire vers El Karama et d'autres indépendants. Donc, il y a un débat interne dans l'islamisme tunisien qui n'est pas tranché. Il y a un deuxième débat qui est le chef, qui n'est pas tranché. Ils ont un chef qui est là depuis des dizaines d'années, dont une partie de l'appareil voudrait essayer de le changer, d'avoir quelqu'un d'autre, d'une autre génération. C'est pas possible. Il y a aussi un débat entre les internes et les externes, comme souvent. Entre ceux qui ont subi la répression benaliste de plein fouet, et Bourguiba également, et ceux qui étaient à Londres ou à Paris ou ailleurs, qui étaient un petit peu éloignés de tout ça et dont l'intellect n'est pas formé de la même manière. Donc c'est un parti, moi je trouve, alors après les gens me disent que je suis peut-être un petit peu... mais je trouve que c'est un parti en en crise. C'est un mouvement en crise qui est aussi contraint par des données externes très puissantes. Aujourd'hui, vous pouvez pas dire que vous êtes frère, vous pouvez pas dire que vous relevez du frérisme islamiste. Et donc, c'est le sort de l'Égypte qui vous attend, c'est la tôle.
Mais alors,
donc ils ont besoin d'être à la fois un parti de gouvernement, d'être à la fois de répondre à la base qui leur dit, mais quand même, sociétalement, c'est pas ce qu'on veut. Et ça, et donc, c'est très complexe.
Alors, il y a un phénomène, là, j'ai lu un article, il existe depuis les années 1980 en Tunisie, une loi qui interdit le port du niqab dans les lieux publics. Mais cette loi n'est pas appliquée. Comment, est-ce que c'est pas
non,
un signe?
La loi est appliquée. Si vous allez dans l'administration, il n'y a pas de femmes qui portent le niqab. Attention,
oui, le niqab, c'est le voile intégral.
Par contre, les femmes voilées, il y en a
partout.
Il y en a partout. Je veux dire, ça, c'est pas.
Bertrand Legendre.
Le problème, il est le problème quand même un peu à court terme. Hein. Il s'agit pas trop de savoir, de philosopher sur l'avenir politique de la Tunisie ou sur sa démocratie. C'est que les gens ont besoin de manger. Tout simplement, et la victoire de Kais Saied est quand même représentative de ça. Quand Kais Saied se dit le problème principal, c'est pas de savoir si on peut établir une loi sur l'égalité de l'héritage, parce que c'est pas le vrai problème des Tunisiens. Il a parfaitement raison. Depuis 2011, l'économie informelle a bondi de 11% à 60%. Ce sont autant de recettes qui ne rentrent pas dans les caisses de l'État. Il y a une inflation qui tourne autour de 7%. Il y a un chômage de 15%, mais qui est de 33% pour les diplômés chômeurs. Les problèmes quotidiens, réguliers, directs de la Tunisie aujourd'hui, qui n'arrivent pas à résoudre parce que leurs élites politiques et économiques sont à la fois immatures et accaparantes. C'est ça le vrai problème d'aujourd'hui. Et si on pose la question à très juste titre, où va la Tunisie? On peut y répondre à court terme, comme moi, quels sont les problèmes concrets, et très brillamment, comme vient de le faire et les BJ, en essayant de comprendre comment, à échéance de 10 ou 20 ans, ça pourrait tourner.
Je voudrais dire quelque chose là-dessus. Je ne suis pas en train d'idéaliser ni les modernistes, ni les islamistes, parce qu'en tout Tunisien, il y a à la fois un conservateur et un progressiste. C'est-à-dire, c'est vraiment quelque chose qui est inhérent à la culture politique même des Tunisiens. Non, je ne dis pas du tout que la solution de la Tunisie, ce sera qu'on évite... c'est-à-dire, nul ne sait encore. Si vous voulez faire des pronostics, vous avez dit, où va la Tunisie, d'accord?
Ce sera troisième partie, justement. On va se demander où va la Tunisie.
Une seconde. Oui. Nul ne sait si la démocratie parviendra à séculariser la religion islamique, ou si la religion, au contraire, ne va pas se servir de la démocratie pour fonder un clergé d'État ou une théocratie. Là, on ne le sait pas. Personne ne peut le prévoir.
Ziad l'imam.
Moi, je pense qu'on est un peu à mi-chemin de tout ça. C'est-à-dire, les islamistes, ils ont un problème. C'est-à-dire, ils sont rassurants sur le plan sociétal. Ils sont rassurants sur le plan civilisationnel parce qu'ils disent à une opinion qui est quand même extrêmement perturbée de sa place dans le monde moderne, de comment interagir avec l'Occident, de comment interagir avec toutes ses forces extérieures, de trouver une espèce d'équilibre éthique et philosophique. L'islamiste répond à ça. Il dit, mais croyez en Dieu et croyez en son ordre et en sa société. Et c'est ce qui a fait de nous, dans le passé, il y a toujours ça aussi qui traîne. Ce que nous avons été, et nous pouvons le redevenir si nous recollons à notre ADN. Mais c'est quand vous regardez tous les sondages qui sont menés dans le monde arabe, il y a une déreligialisation des plus jeunes. C'est mathématique dans tous les pays. Effectivement, les islamistes sont puissants parce qu'ils ont des partis, une organisation, ils ont été clandestins, ils savent se battre, etc. Mais la réalité, c'est que les attentes de cette jeunesse en train d'émerger, de ces nouveaux Arabes, de ces nouveaux musulmans, bien sûr, ils veulent pas être déconnectés de leur culture et de leur religion, mais ils demandent autre chose. Et les islamistes sont pris au piège de cette demande parce qu'ils n'ont aucune réponse sur le plan économique et social. Tous les gouvernements islamistes qui ont exercé le pouvoir se sont cassés la gueule sur le plan économique et social. Toutes les alliances où il y a eu des islamistes institutionnels, encore une fois, j'exclus les Karamas les extrémistes plus à droite encore si on peut, ils n'ont pas cette réponse-là. Et les gens veulent cette réponse-là. Vous avez parlé du chômage, c'est une angoisse pour tous les Tunisiens, les plus jeunes et les diplômés. Vous avez parlé du social, c'est un pays qui est en grève permanente, c'est un pays qui est en contentieux social permanent depuis la Révolution, il faut bien résoudre ce problème. Et donc, là où il y a la faille, et après je laisse la parole, la faille, où est-ce qu'elle est maintenant? C'est qu'il n'y a plus de parti, moi j'aime pas le mot laïque, hein. Je trouve que c'est un mot qui s'applique pas au monde arabe, je trouve que c'est une invention, c'est notre culture européocentrée, mais que c'est pas du tout la culture arabo-musulmane. C'est que les séculiers, les modernistes, tout ce que vous voulez, ont failli aussi. depuis 2011. Et donc, il n'y a plus d'offres politiques à part un ovni qui apparaît, qui s'appelle Raïs Saïd, et qui dit, mais moi, je vais retourner au mythe, aux origines, à la révolution. Et les gens y croient. Mais on n'a pas résolu ni le problème politique, ni le problème économique.
Le flow du rappeur californien Tyler, The Creator, dans le énervé.
Rendez-vous.
Voici 11 ans, le président Bourguiba, seul, contre toutes les traditions, promulguait le code du statut personnel, supprimant la polygamie, interdisant la répudiation de la femme par son mari, légalisant le divorce.
C'est la première fois en Tunisie que l'on manifeste spécifiquement contre l'inégalité en matière de succession entre les femmes et les hommes.
Aujourd'hui qu'on en parle, que c'est dans la place publique, il y a un débat public autour de cette question, je pense qu'on a déjà gagné la bataille.
Le nouveau rendez-vous.
Je viens saluer la constitution de la République tunisienne.
Parmi les principaux points du texte, une place réduite accordée à l'islam et l'objectif affiché de voir la parité homme-femme dans les assemblées élues, une première dans le monde arabe.
Et soyez également sûr, Laurent Goumar, qu'il n'est pas question de toucher aux droits des femmes sur France Inter.
Eh bien voilà, il est rassurant le nouveau président Kais Saied. Quel avenir pour une Tunisie moderne? Alors soyons pratiques avec nos invités et les BJ Ziad Limam et Bertrand Legendre. Quels sont les vrais chantiers pour le président par rapport à cette Tunisie aujourd'hui, Bertrand Legendre? C'est quoi les chantiers?
Écoutez, c'est de desserrer l'économie. L'économie tunisienne, faut bien comprendre ce qui se passe. Ça n'a guère changé depuis l'époque de la fin de la présidence de Bourguiba et depuis l'époque de Ben Ali. L'économie tunisienne est entre les mains de groupes familiaux qui ont tout intérêt à ce que de jeunes entrepreneurs ne surgissent pas pour leur faire concurrence. Et donc, cette économie basée sur une oligarchie rentière et quelquefois mafieuse, il faut la transformer. Et je souhaite beaucoup de courage aux gouvernants qui seront en place je ne sais quand, peut-être dans un mois, peut-être dans plusieurs mois, tant l'Assemblée, on le disait tout à l'heure, est dispersée, pour essayer de faire décoller économiquement la Tunisie et faire en sorte que les gens qui attendent de cette élection, et notamment de celle de Saïed, de Kais Saïed, trouvent des raisons d'espérer en la révolution qui les a tant déçus.
Pareil, c'est le sujet économique pour vous, Syed Libam ?
Moi, je rajoute le mot société, sociale, parce que c'est lié. C'est un pays qui a été à l'avant-garde. Encore une fois, il faut pas non plus
du temps de Bourguiba, vous voulez
oui,
dire.
Oui, et même je le dis avec franchise. Hein, les premières années de Ben Ali sont des années de réformes économiques, l'accord d'association avec l'Union européenne, etc. Tout ça s'arrête, disons, à partir de 2000, et s'impose cette économie dont vous parlez, qui est une économie conservatrice, réactionnaire, rentière, oligarchique, qui
et mafieuse quelquefois. J'insiste. Au deuxième tour, il y avait quand même quelqu'un qui était soupçonné de délits fiscaux et qui était en prison. Vous vous rendez compte de l'image de la Tunisie et de ce que ça signifie.
Enfin, ça joue dans les deux sens parce que
et de ce que ça signifie comme symptôme quand même.
Enfin, il ne faut pas condamner Nabil Karoui avant qu'il soit condamné.
Je parle de soupçon. Je suis juriste.
Oui, quand même. C'est-à-dire qu'on ne peut pas exclure...
Mais en tout cas, la révolution de 2011 s'était faite sur l'idée justement d'une justice sociale et justement d'en finir avec les pots de vin, le détournement de l'économie. Ah, et vous êtes en train de me dire que finalement, en 2019-2020, rien n'a changé, c'est ça ?
Il y a un clan qui a été mis à l'écart, les autres sont restés.
Je rentre pas dans ce type de débat. Parce que je pense qu'on va manquer le fil directeur de critique qui anime profondément l'état d'esprit des Tunisiens. Là, on rentre, on a l'impression qu'on lit des articles de journaux, qu'on colle ensemble l'économie. Non. D'abord, l'économie n'est pas un problème.
Ne dites pas du mal des journaux quand même, cher LBJ.
Mais moi j'écris dans les journaux. Je viens de publier un article dans le Figaro. Vous inquiétez pas. Les titres des journaux peut-être, quand on fait des recoupements avec des titres de journaux. D'abord.
Vous voulez dire que je parle par slogan ?
L'économie. Non.
Ah bon ?
Non, je ne fais pas. D'abord, l'économie n'est pas quelque chose d'économique. L'économie n'est pas l'économie. L'économie, c'est quelque chose... Il y a un ressort moral.
L'économie, c'est quand même je gagne ma vie,
Non, je veux dire que le ressort...
Je veux manger à la fin du mois, je veux manger...
Les conditions qu'on va créer de la prospérité ne sont pas strictement techniquement économiques.
Ziad Imam.
C'est ça qui...
Je pense que vous... Toute expérience démocratique, si elle n'est pas soutenue par une croissance économique, redistribution des richesses, et je parle en particulier dans les pays émergents et les pays en émergence, je parle de la Tunisie, mais on peut parler du Maroc, on peut parler de beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne, on a besoin d'une économie forte pour soutenir des processus démocratiques, sinon les processus démocratiques vont dérailler.
Exactement.
Et donc si on veut que l'expérience tunisienne, qui est une expérience, qui est unique en son genre aujourd'hui, si on veut qu'elle continue, il faut donner des réponses économiques
et sociales.
Je vais dans votre sens.
Pour redistribuer de l'argent, il faut en créer. Donc d'abord, il faut qu'on recrée de la croissance en Tunisie, il faut restructurer des secteurs qui sont des secteurs existants, porteurs, tourisme, transport, agriculture, on a un grand potentiel agricole, etc. Tout ça, industriel, il faut qu'on se renouvelle.
Et qui se sont effondrés ces dernières années.
Ils ne se sont jamais effondrés.
Le tourisme s'est effondré ces dernières années.
Non, effondré, c'est un mot qui est beaucoup trop fort, parce que si c'était effondré, on n'aurait pas pu redémarrer. On a beaucoup perdu, mais la force aussi tunisienne, c'est qu'il y a quand même une structure qui est là. Il y a une technocratie qui est là, il y a un État qui a toujours été là, qui a toujours résisté sur ces 8-10 dernières années aux vagues et aux intempéries. Donc on a les éléments d'un redémarrage. Mais pour ça, il faut un gouvernement qui soit perçu comme étant légitime par cette opinion et cette population, qui soit donc un gouvernement réformateur et anti-corruption, et qui donne une impulsion. Et là, c'est là que ça va se compliquer, parce que c'est pas où il va sortir.
Pour confirmer ce que Ziad dit, je te lis une phrase de mon livre. Je dis, une chose est sûre, d'accord ? Tant que la population n'a pas atteint une vie décente, tant qu'elle ne peut se chauffer ni se nourrir correctement, tant qu'elle est mal soignée, maltraitée, trompée, alors la main qui écrit sur le tableau noir de l'histoire sera tordue par une autre main, avec une éponge, qui effacera instantanément la craie que la première vient de tracer. Donc, voilà, j'ai résumé ta
donc
pensée.
Vous dites exactement la même chose.
Non, non, pas tout à fait.
Pas tout à fait. Bertrand Legendre.
À Codicille, enfin, on n'a pas parlé encore des inégalités. Par exemple, l'été, quand vous êtes sorti sur la côte du littoral chic de Tunisois, vous assistez à des encombrements de voitures, des berlines allemandes rutilantes. J'ai fait cette expérience-là. Et sur la radio de bord, la modeste voiture à la bord de laquelle j'étais, j'entendais que à ce moment-là même, au sud tunisien, l'eau était coupée pour des milliers de personnes. L'eau courante était coupée pour des milliers de personnes, pour des milliers de Tunisiens du centre et du sud. Il faisait 50 degrés. Voilà l'image des inégalités. Et c'est ce problème-là que les dirigeants, c'est-à-dire cette co-direction des affaires économiques par Ennahda et par le clan réformiste séculier, n'a pas réussi, d'où la victoire de Saïed et d'où la poussée islamiste
et
aussi.
Et aucun projet économique, on a l'impression, autre qu'une forme de libéralisme.
Bernard, pourtant, les gens qui ont échoué, pardon Bertrand, les gens qui ont échoué, excusez-moi, les gens qui ont échoué, ont bien été réélus au Parlement. Les islamistes qui ont échoué, qui ont été membres de tous les gouvernements depuis 2011 d'une manière ou d'une autre, ont quand même 50 et quelques députés.
Mais parce que c'est un clan qui se reproduit lui-même. Je disais tout à l'heure, la moitié de la Tunisie ne vote pas. Elle vote de moins en moins. Donc c'est inévitable. Et quand t'as parlé à nouveau de cette poussée conservatrice islamiste, il y avait 33% de femmes, par exemple, dans l'Assemblée des représentants du peuple sortantes. Aujourd'hui, il y a 26%. Là aussi, c'est une régression. Et M. Saïeb est comptable de cette régression. Il l'incarne malgré lui, malgré toute sa bonne volonté et tous les espoirs qu'on a fondés à tort ou à raison sur lui.
Sur le plan des mœurs, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'avancées. Alors certes, on consolide les droits des femmes, ceux qui existent. Enfin, il n'y en a pas non plus tant que ça qui existent encore. Mais par exemple, sur la question de la peine de mort, sur la question de la dépénalisation de l'homosexualité, on reste quand même
Vous avez tout à fait raison, on n'a pas parlé de cet aspect là des choses. Saïed, il est effectivement pour le maintien de la pénalisation de l'homosexualité avec test anal dans les commissariats, qui a été dénoncé par Human Rights Watch à de maintes reprises. Nous ne nous racontons pas que ce n'est pas un candidat, de ce point de vue-là, réactionnaire au sens sémantique du terme.
C'est l'imam.
Moi, je pense que c'est parfaitement vrai. Encore une fois, on vient pas de nulle part. C'est-à-dire que si on regarde la Tunisie d'aujourd'hui, par exemple sur le dossier des femmes, ça va moins vite que ça ne l'a été, mais on est en avance par rapport au monde auquel on appartient. Et le fait qu'il y ait eu un débat, encore une fois, et que ce débat soit vivant sur l'égalité successorale, on ne peut pas imaginer à quel point c'est révolutionnaire en soi qui est le débat. La discussion sur l'homosexualité, on a en face effectivement un clan réactionnaire qui est transcourant, qui va des islamistes aux séculiers qui veulent pas toucher à quelque chose d'explosif. Le fait même qu'il y ait un débat, qu'il y ait une société civile, qu'il y ait des associations, que des caméras rentrent dans les hôpitaux et dans le commissariat. J'ai vu quelque chose l'autre jour sur une chaîne française où il y avait un reportage, un documentaire sur la répression de l'homosexualité au Maghreb. Des caméras rentrent dans les commissariats. Elles filment, elles rentrent dans les... Non mais, c'est ça la Tunisie aussi. On peut pas juste... Il y a quelque chose de vitalité démocratique, de paroles libres qui fait qu'on peut dénoncer ces choses-là. Et en même temps, on a affaire, comme dit Hélé, on a affaire à une société qui est duale. C'est-à-dire, elle entend d'une part égalité successorale et de l'autre côté, elle entend tradition, conservation.
On pourrait dire que la parole se libère, mais pas la pensée.
Non, les deux. C'est un mix permanent. Quand vous allez sur la plage dont parle Monsieur Legendre, que je connais très bien parce que j'y passe une partie de mes étés, vous avez toute la Tunisie sur cette plage. Vous avez des filles en bikini pratiquement et des filles voilées qui se tiennent par la main et qui se baignent ensemble et tout leur gosse se mélange.
Pas en Porsche Cayenne, c'est
non,
ça.
Non, je parlais de la plage. Mais je parle que socialement.
C'est pas facile de se baigner en Porsche Cayenne.
Écoutez, il faut se mettre dans la peau d'un anthropologue. Il faut anthropologue.
Moi, je suis pas anthropologue, donc.
Oui, mais non, mais moi, les écrivains sont des anthropologues de soi, de leur société. D'abord, on a oublié quelque chose d'important qui figure au début de mon livre et qui ensuite entraîne l'originalité de la révolution tunisienne. C'est pourquoi, tout d'un coup, les gouvernements démocratiques ont décidé d'aller démocratiser d'autres sociétés par la force. D'où vient cette espèce d'illusion tragique qui consiste à dire que quand on va imposer la démocratie, elle va fleurir et l'administration, j'appelle ça l'administration du bien, la démocratie, va contre les pays de l'axe du mal. Or, qu'est-ce qu'on a vu surgir ? On a vu l'administration du mal. Donc, il y a, dans ce décor de guerre, on est en guerre. C'est ça le problème aujourd'hui. Et donc, quand on voit que chez nous, la résurgence ou le retour du religieux est permanent, c'est lié à ces foyers où le patriotisme religieux anticolonialiste, entre guillemets, parce que c'est perçu comme une nouvelle ingérence, c'est en gros exporter la démocratie, c'est importer la guerre en Europe. Je parle de l'Europe, là. Hein. C'est importer la guerre en Europe.
Bertrand Legendre,
pourquoi attendez, je termine. Et pourquoi donc? Et la Tunisie, comment elle s'inscrit là-dedans? Eh bien, elle prouve que l'émancipation ne peut venir que de soi. On ne peut pas vous forcer à être libre. Ça appartient à votre généalogie historique. Voilà.
Oui, je ne sais pas si on est à la fin de ces missions, mais je voudrais la terminer, en tout cas pour ma part, sur une note optimiste. Je viens de passer 8 jours en Tunisie, allant de ville en ville pour faire des conférences sur ce livre de Bourguiba, cette biographie que je viens de publier. Et j'ai constaté, en parlant beaucoup avec les gens, qu'il y a une société civile très active. C'est vrai qu'on est obnubilé, et à juste titre, par la classe politique, qui a failli, qui est très immature. Mais la Tunisie, parce que c'est une démocratie, est très solidaire d'elle-même. Il y a partout, d'ONG très classiques comme nous les connaissons, à Lions Club de la grande ville de Sfax, par exemple. Ce tissu associatif est quand même l'espoir de la Tunisie, et très concrètement, ça amène à relativiser les débats politiques ou économiques que nous avons.
Bah merci à vous tous, merci à vous trois. Vous restez avec nous, car tout de suite, la musique fait son chemin. Elle arrive en live avec Marion Guilbeault.
Le nouveau rendez-vous sur France Inter.
On a appris plein de choses sur la Tunisie, hein, Christophe Bourseiller.
Ça m'a ouvert des horizons. Cette émission m'ouvre des horizons. J'envisage une émigration.
Moi, je vous emmène un peu plus loin que la Tunisie, plutôt dans le plat pays, du côté de Gand, en Belgique. Et pourtant, son histoire à Charlotte Adigéry ne commence pas à Gand. Elle commence bien plus loin, bien plus avant. C'est la descendante d'une tribu Yoruba qui s'était libérée de l'esclavage lors de leur passage en Martinique. Alors, aujourd'hui, elle vit à Gand. C'est la ville Gand des frères De Waal. Alors, les frères De Waal, on les connaît plus dans le milieu de l'électro sous le nom de Soul Wax ou de Too Many DJs. C'est les deux producteurs européens les plus courus des deux dernières décennies. Alors Charlotte Adigéry, elle les a rencontrés en 2016 sur le tournage du film Belgica de Félix Groningen. Au départ, elle était censée faire juste un playback. Et quand les frères De Waal, en charge de la BO du film, ont entendu sa voix soul, ils ont flashé, ils l'ont signé sur leur label Diwi et ils l'ont enregistré sur ce titre. On vient d'entendre The Best Thing, c'était la chanson du film Belgica avec la voix déjà de Charlotte Adigéry. Depuis, elle collabore avec son chéri, le producteur Boris Poupoul. Il est descendant, lui, de l'immigration chinoise en Martinique. Ensemble, ils questionnent leur héritage familial, culturel. Ils explorent toutes les arcanes d'Ableton, le logiciel musical. Et ils élaborent une musique très percussive, un hybride entre néo-soul, new wave synthétique et rythme du guoka martiniquais. On n'est pas loin de la sono mondiale, Gilles Peterson en est dingue. Nous, c'est pareil, et je suis sûre que David Byrne va bientôt craquer. Alors juste avant l'émission, on discutait avec Charlotte Adigéry et elle m'a confié qu'il venait aussi de composer un clip et une musique de méditation de 17 minutes. Alors je vous rassure, hein, Laurent, c'est pas ça.
La méditation, vous savez, c'est pas pour moi.
Tout de suite, hein, je sais.
J'ai pas assez de vie intérieure voilà. Pour me bon,
en tout
permettre
cas,
ça.
Il semble que dans la vie de Charlotte Adigéry, il y ait besoin parfois de calme, de retrait. Alors ses chansons sont aussi, de temps en temps, aussi surréalistes que son plat pays. Bonsoir Charlotte Adigéry. Et justement, à propos du titre que vous allez jouer ce soir... Moi, j'ai compris qu'il était question d'une perruque au pouvoir magique. Est-ce que c'est moi qui ai raison ou est-ce que j'ai absolument rien compris à la chanson ?
C'est votre interprétation, c'était pas mon intention.
Ouais. Pourtant, mais pourquoi pas ? Il y a beaucoup de perruques dans cette chanson.
Il y en a beaucoup. Ouais. Alors, Il y a plusieurs dimensions dans ce morceau. Au premier degré, ça parle d'une homme, comment dire, moi qui adore les perruques, j'adore m'exprimer visuellement.
Vous avez des cheveux roses aujourd'hui.
J'ai des cheveux roses, oui. Et puis, mais au deuxième degré, plus profondément, ça parle de la femme noire qui doit apprendre à s'assumer. Célébrer qui on est et ne pas avoir peur de s'exprimer aussi visuellement, parce que s'exprimer visuellement, ce n'est pas toujours un truc super officiel. Ça compose tellement plus, et surtout la femme noire, je crois. On a beaucoup vécu, beaucoup souffert, et c'est une façon pour nous, hein, c'est un rituel d'aller chez le coiffeur et se réinventer. Qui suis-je aujourd'hui? Mais on reste toujours égal à nous-mêmes. C'est pas se cacher derrière une perruque, c'est juste avoir des extensions.
Voilà. Eh ben, c'est super cette extension. On va l'écouter en live ce soir dans le NRV. Charlotte Adigéry, c'est à vous.
Merci. I know I shouldn't do it, but
Merci.
Highlights, c'était Charlotte Adigéry. C'est un titre à 120 BPM. Il était juste calé sur les secondes de l'horloge du 621. Cet extrait de Zandoli, c'est son premier EP. C'est disponible sur Diwi, le label de Soulwax. Elle était accompagnée par son chéri Boris Poupoul aux machines. Prise de son ce soir assurée par Juliette Delperroux et Florent Layani. Merci tout le monde.
Et merci à nos invités. Merci Ziad Limam. Merci LBJ. Dommage Tunisie, la dépression démocratique, s'est paru aux éditions Gallimard. Bertrand Legendre, Bourguiba aux éditions Fayard. Eh bien ça, c'était le NRV. Première partie, on va se retrouver dans 15 minutes pour le NRV La Suite, pour plus de France Inter, mais lundi. Comme dirait Christophe Boursillier, Kézako lundi. Chamanisme en transe. Avec vous, Christophe, vous serez là lundi.
Évidemment, je vais rentrer en transe.
Avec 5 invités, on n'a jamais fait autant. On vous attend sur le sujet. Vous pouvez bien sûr laisser des messages, des questions, des analyses sur notre répondeur 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. En live, Marion.
On va retrouver la nonchalance du rappeur Le Noiseur.
Le NRV cette semaine, c'était Juliette Medevielle à la réalisation, programmation, préparation, Virginie Rouzic et Clémence Diligent.
Rendez-vous. Tu vas donner rendez-vous demain.